en termes, apparemment, autant qu'on le sache, de vote populaire, c'est une victoire serrée. En termes de grands électeurs, c'est une victoire assez large. De toute façon, c'est une victoire. Et c'est cela qui compte, puisque désormais, le président Obama ne sera pas le président d'un seul mandat, comme ses adversaires le souhaitaient, mais le président de deux mandats. Ça a un avantage et un inconvénient. Souvent, les deuxièmes mandats, ça c'est l'inconvénient, sont difficiles. À l'expérience, on le sait bien, on pense en particulier à Reagan, on pense à Clinton, mais d'autre part, les deuxièmes mandats permettent quand même de consolider l'œuvre antérieure et surtout, on a rarement vu de président s'inscrivant comme de grands présidents dans l'histoire américaine sans accomplir un deuxième mandat. De ce point de vue-là, c'est une très bonne nouvelle pour Barack Obama. Il est maintenant sûr que ce qui est sa marque sur l'histoire, à savoir la loi sur la santé, ne sera plus remise en cause, et probablement d'autant moins que certains de ses aspects les plus positifs vont être mis en vigueur à partir de l'année 2014 et au-delà.
Parallèlement à l'élection présidentielle en soi, il y avait également des élections pour renouveler un tiers du Sénat et l'ensemble de la Chambre des représentants. De ce côté-là non plus, il n'y a pas beaucoup de changements. Est-ce que le rapport de force, du coup, ne va pas être semblable à celui qui prévalait avant ce 6 novembre ?
C'est ce que l'on peut redouter, effectivement, puisqu'il semble bien que l'on aura un Sénat qui sera démocrate et une Chambre qui restera républicaine. Cela risque d'être difficile pour Obama, alors même qu'il va être confronté à ce que l'on appelle le fiscal cliff, la falaise fiscale, l'accumulation de problèmes d'une très grande urgence et d'une très grande gravité à résoudre, à savoir l'extinction à la fin de l'année des réductions fiscales qui avaient été obtenues par George W. Bush au début de son mandat en 2001, mais aussi la mise en œuvre, si un accord n'est pas conclu d'ici là, des coupes drastiques prévues par l'accord sur le relèvement du niveau de la dette en l'été 2011, à quoi s'ajoute, il faut le dire, l'arrêt des réduction de cotisations sociales que Obama avait obtenu pour un certain nombre de salariés, ainsi que l'arrêt de l'extension des allocations chômage. Alors, on a là, n'est-ce pas, une constellation de difficultés extrêmement fortes. Le tout est de savoir si ce président, qui s'est dit décidé à le faire, parviendra à négocier avec les républicains de la Chambre un accord satisfaisant au moins en partie pour les deux formations. Tout dépendra, je pense, de la confirmation de la marge de sa victoire, mais comme on l'a vu, elle risque d'être forte au collège électoral, mais serrée en termes de vote populaire. Et tout dépendra surtout des leçons que tireront les républicains de cette défaite au présidentiel. Est-ce que les Tea Party feront prévaloir, comme ils vont certainement chercher à le faire, l'idée que Romney était un candidat trop modéré et que c'est pour cela que l'on a perdu? Ou est-ce que des élus plus raisonnables considéreront que le temps est venu de montrer que les républicains ne sont pas le parti d'une niette, un parti un peu nihiliste qui fait obstruction? Il est certain que avec un nouveau mandat, le président disposera d'une certaine capacité de pression, mais on peut encore s'interroger sur la stratégie que face à lui adopteront les républicains.
Justement, les républicains, qu'est-ce qu'il aura manqué cette année pour gagner ?
Oui, c'est une très bonne question, parce que normalement, ils auraient dû gagner vu les chiffres économiques. C'est la première fois, il faut le noter, qu'un président est élu avec un taux de chômage qui approche les 8%. Le pays a compris, un, et ça c'est très clair, que malgré tout le vrai responsable de la situation c'était George W. Bush, et deux, que les choses lui paraissaient s'améliorer, et que donc il fallait, comme Obama l'a demandé, comme Clinton l'a demandé pour lui, il fallait donner au président la chance de poursuivre une politique qui commençait à porter ses fruits. Mais normalement, avec de tels taux, dans une telle condition, on aurait dû avoir plutôt un succès du candidat de l'opposition. Je pense que deux choses ont joué contre Romney. La première, c'est que il est apparu quand même assez brouillé dans ses positions. On ne savait plus très bien qui il était. On ne savait plus s'il était le centriste. Il avait été dans les années 2000 comme gouverneur du Massachusetts ou au contraire une sorte de candidat furtif de la Tea Party. Et donc ce radicalisme évidemment pouvait lui nuire. Et c'est en effet la deuxième raison. Et je pense que cette raison se concentre sur le vote hispanique. Il faut voir que la donnée essentielle des élections américaines, c'est la transformation de la démographie américaine. En 80, si vous voulez, le vote blanc représentait 88% du vote, les minorités 12%. En 2004, je n'ai pas les chiffres évidemment, en 2008, je n'ai pas les chiffres malheureusement pour 2012, mais ça ne peut aller que dans ce sens-là. On avait donc en 2008, on avait 74% de vote blanc et 26% de vote minoritaire. Noir sans doute, avant tout, mais aussi assez largement hispanique. Or, le discours de Romney, en réponse en quelque sorte à une petite partie qui se méfiait de lui et qu'il voulait convaincre de sa bonne foi, a été qu'il fallait que les hispaniques s'auto-expulsent, c'est-à-dire leur créer, du moins quand je dis les hispaniques, je me corrige, bien sûr, les immigrants illégaux hispaniques. Mais ce discours très dur a été d'autant plus négatif qu'Obama, qui a pourtant procédé lui-même à 400 000 expulsions d'illégaux par an, Obama, au dernier moment, a pris par décret une décision très importante aux yeux des hispaniques, c'est-à-dire il a accordé un très large sursis aux jeunes hispaniques qui étaient désireux en particulier de faire des études ou de se former professionnellement aux États-Unis et du coup a largement, semble-t-il, emporté ce vote qui désormais dans certains États, et en particulier ces swing states, n'est-ce pas, qui étaient au fond les seuls enjeux puisque 80% des États étaient acquis à un parti ou à un autre, étaient décisifs.